Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Bonsoir les copains, merci d'avoir choisi 7 Excellent, l'émission qui crée le lien tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Ici, les créateurs qui prennent le risque de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression, viennent partager avec vous leur savoir-faire. Cette excellence mélangée qui fait l'exception française et sa pluralité. Ce soir, je reçois pour vous la voix et le fondateur d'un de nos émérites groupes de rock français, le bien connu Dionysos, comme le dieu grec. Cet homme poétique, comme il aime à se définir lui-même, sans barrière de genre, est écrivain aussi. Et il vient nous parler de son tout dernier livre ce soir. C'est bien Mathias Malzieux et son guerrier de porcelaine sorti chez Albin Michel que vous pouvez entendre sur Sud Radio, les copains. Il sera rejoint par une femme aux multiples talents, dont le riche chemin est bien la preuve qu'on peut avoir vécu plusieurs routes sans qu'elles se contredisent. Elle était journaliste, animatrice de télévision, elle est auteure et depuis plus d'un an la voilà directrice exécutive RSE chez Orange, dont elle est aussi directrice déléguée de la Fondation. Et elle sort aussi un livre d'entretien au titre révélateur « Tout est possible » avec Agathe Cagé chez l'Aube. J'ai nommé Elisabeth Chungi qui vient se raconter pour vous ce soir. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Mathias Malzieux.
Bonsoir.
Bienvenue dans cet excellent.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on va évidemment parler de ce qui vous a fait devenir vous-même, hein, c'est certain. Puis vous écoutez aussi tout à l'heure. Mais avant ça, on va se pencher un peu sur votre tout dernier livre, hein, je le dis en intro. Le guerrier de porcelaine qui est sorti chez Albin Michel ce mois-ci. Alors Mathias Malzieux, vous avez choisi pour ce livre une forme d'autofiction, puisque vous racontez l'histoire de votre papa. Vous racontez son enfance en fait dans la guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale. Le petit Ménou, hein, le sujet de ce livre. Alors pourquoi ce choix? Est-ce qu'il fallait écrire l'histoire aussi pour l'alléger? Est-ce que c'est une manière de lui rendre hommage?
C'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'il y a, une envie de, consoler quelque part. On peut plus, on peut plus rassurer. En plus, moi, je suis devenu entre guillemets avec lui expert en deuil, vu qu'on a perdu, lui a perdu sa femme.
Et vous,
moi, j'ai perdu ma maman et lui a perdu sa mère très jeune. Et au moment où moi, je suis tombé gravement malade, du coup, l'ordre des choses était bousculé d'une manière si intense qu'il y avait deux béquilles. Il y avait la Coupe du Monde 2014, qui nous permet d'avoir une complicité de football un peu qui dévie des sujets principaux. Quand il venait me voir à l'hôpital et qu'il y avait ce côté, une perfusion, une transfusion, un truc, il y avait le football. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette légende urbaine qui m'a toujours raconté en me montrant des photos de la Fromule, de la tante Louise, de son vélo, de son biclou, et cette histoire où il traversait la ligne de démarcation dans une charrette de foin. Donc il y avait des photos, il y avait la lettre de ma mère, et toujours des choses comme ça. Et c'était un petit peu magique et un petit peu émouvant, parce qu'on savait qu'il avait perdu sa maman. Mais il y a toujours ce truc-là, et à ce moment-là, notamment un jour où derrière son masque chirurgical, comme on en porte tous aujourd'hui, j'ai vu son regard d'une espèce de tristesse... masqué parce qu'il essayait justement de montrer que tout va bien. J'ai eu envie, en fait, au lieu qu'on parle de moi, me remettre à parler de lui, et d'un coup je redevenais un petit peu son fils. C'est à nouveau mon père qui me racontait quelque chose, et le livre est parti de là, de ce désir-là.
Et vous plongez dans lui en tant que fils, justement.
Oui,
aussi.
Alors le déclic pour trouver la musique de ce livre, ça a été au moment où j'ai décidé qu'il parlerait comme une adresse à sa mère, qu'il continuerait d'écrire sur ses cahiers d'école qu'il ne peut plus utiliser pour l'école, en tout cas. Donc, parce qu'au début, j'étais à la troisième personne. Après, j'ai été à la première personne, mais avec un « je me souviens » au passé. Et je trouvais ça trop classique, trop mou. Je trouvais que le contexte historique prenait trop de place. Alors qu'à partir du moment où j'ai décidé que c'est lui qui parlait, je me suis rapproché du personnage et tout le superflu est tombé de lui-même. Donc du coup, c'est pour ça que c'est quand même un roman et pas un récit. Dans la vraie vie, il avait 4 ans.
Oui.
Il a 83 ans maintenant.
Il a 10 ans, c'est ça?
Ouais, je lui en ai fait avoir entre 9 et 10 pendant l'année de guerre qu'il traverse. En vrai, dans le roman, mais comme ça, il pouvait écrire lui-même. Alors, j'ai relu le journal d'Anne Frank, qui a 13 ans, c'est incroyable, à 13 ans, on écrit vraiment comme une adulte. Après, les filles sont souvent un petit peu plus évoluées, plus jeunes,
Mathias Malzieux, votre livre, il m'a fait penser à La Nuit de Elie Wiesel, parce qu'il y a un point de vue d'enfant, en fait, qui est assez poignant, et qui permet de décrire l'horreur de manière presque naïve et presque enjolivée, hein. C'est parfois poétique, même. Ça, c'est aussi un acte volontaire. Chez vous, c'est un acte de résilience, en fait.
Hein. Exactement. C'est-à-dire que je voulais... j'aime bien cette métaphore. On m'avait raconté comment on faisait les premiers ciels étoilés dans les films dans les années 50. On prenait un tissu noir, on faisait des trous dedans et on mettait de la lumière derrière.
Ah, c'est marrant.
Et je trouve que quand un voile noir tombe une guerre et qui plus est avec le nazisme qui noircit encore le tableau. Et ben il y a toujours des moyens, quelque part, de faire des trous et de mettre de la lumière derrière. C'est, j'ai toujours, alors,
il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Quoi.
On peut se débrouiller. Et c'est, après, c'est une question de choix. Et je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois.
Mais, on peut le décider. Quoi.
Mais on peut essayer. Et il y a plusieurs moyens. Et je crois que la joie, malgré le deuil, qui culpabilise parfois, surtout au début, on ne sait pas trop quoi en faire de cette joie qui revient, de la vie qui reprend le dessus. C'est un des chemins, et puis c'est la beauté du contraste. Ouais. C'est voilà, il y a un petit dicton qu'on connaît qui est vieux comme le monde et qui est tout bête. C'est après la pluie le beau temps.
Oui.
Alors bon, il faut juste le courage de subir la pluie.
Souvent les proverbes de sagesse populaire de temps en temps, effectivement. Ouais. Alors votre papa, mais nous dans cette histoire, sans spoiler pour les auditeurs, je rappelle le livre, hein, Le Carré de Porcelaine, qui est sorti chez Albin Michel. Il commence son aventure suite donc à la mort de sa maman. Vous le dites, votre grand-mère, hein, qui est morte en couche. Et quelque part, avec ce livre, vous la faites revivre, elle aussi, puisqu'à travers son absence, elle s'incarne à travers son fils, à travers l'odeur, à travers les souvenirs qu'il a d'elle, à travers des moments comme ça, des instantanés. Vous inscrivez sa mort dans le domaine du vivant, finalement. C'est pareil, c'est le même acte.
Oui, c'est un petit peu mexicain comme idée, parce que les Mexicains, j'ai eu la chance d'aller dans ce pays que j'ai adoré.
Oui.
Et ils disent, et peu importe la croyance, que ce soit catholique ou pas, ou que c'est plus animiste ou quoi, à partir du moment où on continue de penser à nos morts, ils ne meurent pas. Ils meurent vraiment...
Quand on les oublie.
Quand on les oublie. Mmh. Et il y a quelque chose comme ça, vous parliez d'hommage tout à l'heure, et on peut tout simplement appeler ça hommage. Ce n'est absolument pas mystique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas à un fantôme qui croit exister et qui vient se faufiler entre les murs.
Non, il y a des instants fugaces, quoi, de présence.
Mais par contre, il est dans l'évocation forte, et il continue de lui parler, donc il est... vous savez, comme c'est... ces samouraïs à qui on coupe la tête, et normalement, si c'est un vrai samouraï, il continue de se battre.
Oui.
Ou on est encore sur les histoires des étoiles. Les étoiles mortes, elles continuent d'éclairer.
Mm.
Et ça, c'est un souvenir aussi de mon père. Quand il m'avait expliqué ça, j'avais trouvé ça incroyable. Un jour, il m'avait dit, bah, tu sais, il y a des étoiles qu'on voit, mais qui sont mortes depuis longtemps. Et ça m'avait, j'avais trouvé ça incroyable. Et je comprenais pas. Il m'a dit, viens voir. Et en fait, il a mis le tuyau d'arrosage sur le robinet.
Oui.
Il a branché l'eau. C'est sorti par le tuyau, et après il a coupé le robinet, il m'a dit regarde, l'eau continue un petit peu, les étoiles c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus loin.
Dis donc, on voit d'où vous tenez votre inspiration, hein. Votre papa il est important pour vous.
Ah bah oui.
Ouais, clairement. Oui. Alors Mathis Malzieu, ce roman de vos origines, est-ce que vous l'avez écrit pendant la pandémie?
Oui, en partie, c'est-à-dire que donc, j'ai commencé effectivement pendant cette première hospitalisation, avec le désir de me dire, ben voilà, ce que j'écrivais en même temps, un journal d'un vampire en pyjama.
On va en parler juste après.
Et puis je me suis dit, bon ben voilà, c'est un premier traitement, j'avais une chance sur deux de pouvoir échapper à la greffe. Et je me suis dit, bah voilà, je sors de l'hôpital et j'écris ça, donc je pouvais pas sortir, du coup j'en ai fait un vinyle chez moi dans un siège œuf, parce que j'ai un petit label de vinyle qui s'appelle Eggman Records.
D'accord.
Où j'enregistre des vinyles à 300 exemplaires dans un siège œuf chez moi.
D'accord.
Et, et avec ça, donc je pouvais pas sortir, donc je pouvais pas aller chercher l'art, je pouvais pas aller au cinéma, je pouvais pas fabriquer des choses, donc j'amenais tout chez moi. Et là, j'ai fait ça. J'ai commencé à écrire ce livre. Je l'ai enregistré en vinyle. Il y a Mathieu Chédid qui est venu à la maison, Clémence Poésie, Carmen Maria Vega, mais aussi ma pharmacienne qui a une très jolie voix, qui raconte des histoires à ses enfants pour les endormir.
Vous en avez fait un podcast, quoi, en fait.
Ouais, une espèce de podcast vinyle, 300 exemplaires. Voilà, on a mangé des crêpes, on a mixé.
Édition limitée, trouvable dans le commerce ou pas?
Il est plus trouvable.
Non, ça y est.
Il est plus trouvable, ouais. mais je vais peut-être en refaire un petit peu, du coup. Normalement, je me recave pas, mais là, c'est rigolo. Et dedans, on avait glissé justement la véritable lettre de ma mère, plein de choses, des photos, etc. C'était vraiment du collector.
C'est un bel objet, quoi.
Ouais. Bah, c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment comme quand on fait ses enregistrements et qu'on les vend, c'est comme inviter quelqu'un à manger, quoi.
Ouais.
On met une belle table, on fait un petit truc, on essaye de faire plaisir, et puis ensuite on voit ce qui se passe. Mais malheureusement, j'ai eu besoin de la greffe. Et heureusement, j'ai trouvé un greffon, donc ça c'est encore tout un autre sujet. Du coup, j'ai dû reprendre par urgence le journal d'un vampire en pyjama. Je ne pouvais plus travailler sur autre chose que ça, parce que la réalité était si menaçante et proche de moi que j'avais besoin de la mettre à distance en m'y confrontant directement, pas en écrivant un
c'est
autre
pour vous
livre.
Soigner aussi, que
exactement.
Vous avez écrit ce livre.
Enfin, en tout cas, pour résister, encore
pour
une
résister.
Fois.
C'est un acte de résistance.
Et le truc, c'est qu'ensuite, quand j'ai repris le guerrier de porcelaine que j'avais mis dans un petit tiroir au chaud, Eh ben, on était en période post-attentat 2015. Mmh. Moi, on venait de se battre pour me sauver la vie. Et 15 jours après, on tirait sur Cabu. Donc, il y avait un moment où, en fait, on replongeait dans un truc de guerre et de mon père.
Ça permettait peut-être aussi de simplifier l'actuel, quoi, de le rendre moins dur.
Bah, là, en tout
cas,
j'y arrivais
pas. Cette période de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même une période tellement noire que voilà. Le fait de l'écrire pendant une période de pandémie qui est grave, mais qui finalement, au prorata, elle est moins.
C'est pour ça que je l'ai écrit plus tard, voilà, finalement, parce qu'en 2015-2016...
Ça permet de dédramatiser. Après ça, quoi. Après
voilà, là, j'ai pas pu. Ouais. J'ai su retourner, j'avais l'impression d'avoir des habits trop petits, ça me rappelait... J'ai l'impression de retourner à l'hôpital quand je parlais avec lui. Mmh. C'était trop compliqué pour moi, donc j'ai eu besoin de vraiment de balles neuves. Donc je suis parti, j'ai écrit Une sirène à Paris, j'ai fait un livre, un disque, un film, j'ai eu besoin de me réenchanter Paris, d'écrire un conte. Et de retrouver
mes jouets. D'ailleurs, vous le faites souvent, ça. Hein, les trois objets sont très liés chez vous. Hein.
Oui, bah, je peux pas m'empêcher parce que c'est pas un concept. Hein, c'est pas du tout intellectualisé. C'est en fait, c'est une bobine de fil qui. Je vois un personnage, donc du coup, je l'imagine au cinéma. Puis des fois, je fais, qu'est-ce qu'il écouterait ? Ou alors, je lui fais son thème parce que je suis marqué à vie par les westerns de la dernière séance d'Eddie Mitchell.
Ouais. Donc, il y a
ces choses-là qui se passent. Mais du coup, j'ai écrit ce livre-là et ensuite, pendant le confinement. Il y a eu plusieurs déclencheurs. Il y a eu le fait que, Une sirène à Paris sorti 3 jours au cinéma, puis c'était le confinement, donc il y a eu un petit choc. Et j'ai eu besoin de repartir à nouveau sur quelque chose de nouveau. Ma fiancée a rencontré mon père. Et il y a eu un truc, une tendresse, quelque chose. Et je lui ai fait écouter le vinyle et je lui ai parlé de cette histoire. Et elle m'a dit, mais il faut que tu écrives ce livre, c'est important, quoi. C'est vraiment une belle histoire, il faut que tu l'écrives. Et du coup, avec ce souffle et le temps, il y avait la digestion. Oui. Quand j'ai retrouvé le texte, c'est reparti. Et en plus, voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Mmh. Quand j'ai pris cette décision que c'est lui qui écrivait une adresse à sa mère sur tout le livre, et ben là, après, j'étais moins dans le doute. J'étais plus dans comme si je montais sur scène et que quoi qu'il arrive, ça y est, maintenant, c'est maintenant. Donc il n'y a plus à réfléchir. Voilà.
Très rapidement, Mathias Malzieu, si on se base donc sur le succès dont vous parlez, hein, votre essai justement sorti en 2016, Un vampire en pyjama, qui, je le dis pour les auditeurs, a quand même reçu le prix Essai France Télévisions et puis le grand prix d'Électrice Duel. Vous l'avez écrit à l'IT, hein, on le dit, suite à cette maladie grave. Est-ce que votre meilleure inspiration, c'est vous-même? Et est-ce que la difficulté, c'est une bonne inspiration chez vous?
C'est un mélange, c'est pas que moi-même. Moi-même, je ne me suffirais pas à moi-même.
Ouais.
J'ai besoin d'être comme un espèce de silex.
C'est les circonstances aussi.
Oui, c'est les situations, c'est les choix, c'est les. Je ne suis pas le feu, mais je peux être le silex. Et le silex se frotte à la réalité et aux rêves. Et ensuite, c'est toute une histoire de sculpture et de cuisine. Mais je ne me suffirais pas moi-même, ça c'est sûr.
C'est une histoire d'ingrédients, quoi, hein, c'est ça.
Oui.
Ma mère était
cordon bleu, vraiment. Donc,
vous avez un rapport au mot qui est un peu comme ça, quoi.
Ah oui, ouais. Je trouve que la gourmandise et la cuisine. A un rapport assez clair avec la créativité, la sensibilité et même une forme d'érotisme, me semble-t-il.
Tout à fait. Merci Mathias
Malzieu
pour ce partage. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi en compagnie de l'excellent fondateur et voix du groupe Dionysos et écrivain aussi, Mathias Malzieu, qui sera bientôt accompagné de la directrice exécutive RSE éclairée du groupe Orange, Elisabeth Tchoungui. Restez là, nous on revient. À tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair.
Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Vous pouvez écouter ici ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. À mes côtés ce soir, le chanteur, auteur, compositeur, homme poétique Mathias Malzieu, qui sera rejoint dans un quart d'heure par une femme engagée, il va sans dire, Elisabeth Tchoungui, à la tête de la responsabilité sociale, entre autres, de l'entreprise Orange. Mais tout de suite, Mathias Malzieu, on a parlé de vous écrivain, on vous écoute chanter avec votre groupe Dionysos maintenant.
Il me connaît ce chêne, il me connaît depuis bien longtemps, il n'oublie rien le chêne, je me déchaîne pour remonter le temps. L'amour à mort j'ai déjà donné, plus jamais je ne retournerai au pays des fées, aux ailes barbelées. Tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Oh, tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Tais-toi mon cœur,
je ne te reconnais pas.
Moi je connais. I'm happy like a flower, I'm going down by the hill. In the city center, I've met a big black clock. He rings his bell so loudly, I thought it was my dad.
Excellent. On vient d'entendre sur Sud Radio le groupe de rock qui n'est plus à présenter, Dionysos, représenté ici par son fondateur et chanteur Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, il y a des étoiles dans votre musique. Vous parliez d'étoiles tout à l'heure, c'est ce que ça m'est venu comme ça en vous réécoutant là. Hein, il y a du rêve, quoi. Il y a de l'enfance, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a même la noirceur, elle est traitée comme ça.
Oui, c'est vrai que je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que j'ai encore une fascination aujourd'hui sur le ciel étoilé. Ça continue de m'attraper. C'est-à-dire que je vais là j'ai eu la chance d'aller en Polynésie récemment. On a l'impression que le ciel est plus près.
Ouais.
Et c'est
on ça, voit la ça... branche de la galaxie, quoi.
Ouais.
C'est ça. Ouais.
Ouais. On a l'impression qu'on peut grimper, quoi, que si on.
Vous avez vu qu'il paraît qu'on est dans une bulle. Que notre partie, notre système solaire, il est dans une bulle.
Oui, 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 j'ai
vu ça. Étonnant, hein,
ouais.
Ça vient de
j'aime
sortir.
Bien l'idée.
Alors, Mathias Malzieu, dans ces courts extraits qu'on vient d'entendre, il y a notamment deux chansons tirées du tout dernier album de Dionysos qui est sorti en 2020. Première question évidente, est-ce que vous en préparez un prochain actuellement?
J'en prépare deux.
Deux? Ah!
Je prépare un album avec ma compagne.
Oui.
Qui est une plasticienne qui devient chanteuse de manière assez extraordinaire.
À votre contact?
Un petit peu, oui. Quand même. Parce d'accord. qu'en tout cas, bon, bah, je lui ai pas inventé son talent, mais le fait est que je l'ai vu. Et que je lui ai encouragé. On a fait un recueil de poèmes tous les deux l'an dernier.
D'accord.
Qui s'appelle Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse.
Oui. Vous êtes un couple prolifique.
Ah oui, bah, oui, bah, elle était à Arles l'été dernier. Elle sera à Arles l'année prochaine. Elle prépare son premier recueil de poèmes aussi.
D'accord.
Pour l'iconoclaste, mais on fait aussi des choses ensemble, et notamment encore une histoire de résilience, c'est-à-dire qu'on a eu cette chose dont on parle très peu et qui est pourtant très courante et très difficile, qu'on appelle une fausse couche.
Mmh.
Et derrière, il y a eu un besoin de résilience à nouveau là, et donc il y a eu un album sur le désir d'enfant, sur la rencontre, mais aussi sur l'après.
Ouais.
Et donc on en a fait une comédie musicale avec juste un orchestre symphonique. Et des programmations électroniques. Et on a clippé tout ça avec un photographe génial qui s'appelle Le Turc.
Oui.
Avec un cas qui est un espèce de génie entre Cocteau, Gondry et Méliès.
Génial.
Et on a fait, du coup, il y aura chaque clip de chaque chanson, mais l'ensemble fera comme un petit film.
Mmh.
Donc ça
vous arrêtez jamais, en fait. Hein.
Et non, je m'arrête jamais parce qu'en même temps, j'écris les chansons pour le prochain Dionysos.
Oui.
Qui pour l'instant s'appelle Roman Fleuve.
D'accord.
Parce que maintenant j'habite sur une péniche et que.
Juste avant c'était sur Prisier, là c'est Roman Fleuve.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'écris ces chansons-là.
Sur l'eau, quoi.
Sur l'eau et avec le pays des reflets qui est dessous, avec tout ça. Et ce sera pour les 30 ans du groupe en 2023. Donc j'écris
30 ans, c'est étonnant. Hein.
C'est étonnant, hein, avec
vite,
les mêmes.
Hein.
Et on a même le sonorisateur, il est là depuis 22 ans.
Et c'est quoi le secret alors pour que ça fonctionne, un groupe pendant 30 ans? Parce qu'on sait que c'est pas toujours simple. On a pas mal d'exemples.
Je crois que c'est la camaraderie.
Ouais.
Et l'esprit d'aventure. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a de la place à l'extérieur et à l'intérieur pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans une espèce de routine. Ah oui, Dionysos, c'est ça, donc ça, on ne peut pas faire.
Mmh.
Quand on a envie de faire folk, on fait folk. Quand on veut être punk, alors qu'on n'a plus l'âge, on redevient punk. Quand on veut mettre des cultures qui nous ressemblent, qui sont éloignées, comme des mariachis mexicains, comme des beats qui sont hip-hop, des choses.
C'est ça la musique en même temps.
Et ben nous on aime en fait.
Ouais.
Encore une fois, on parlait de cuisine tout
ouais,
à l'heure.
C'est ça.
Et ben même dans la musique, moi ce côté chimère de la musique et qui se mélange, ça me plaît. Et pas pour faire sans prétention ethno-musicale. C'est juste au goût. Et par exemple, il y a quelque chose qui compte énormément pour moi et pour nous, c'est le blues du Mississippi. C'est-à-dire que c'est vraiment ces chants.
C'est l'authenticité, c'est... en fait, hein, des sons, du groove de la suave. C'est
terrible. Hein, moi, c'est un truc qui me transperce.
Ouais.
Je peux avoir du plaisir à écouter la musique classique, des choses, plein de choses, mais le truc qui me transperce complètement,
c'est. Le blues de la Nouvelle-Orléans.
C'est Leadbelly. C'est Leadbelly, ouais.
Alors, je vais citer votre tout dernier couplet de la chanson Le Chêne, hein, qui est sorti sur Le Surprisier. Tu l'as planté, ce chêne, tu l'as planté le jour où je suis née. Il a poussé le chêne dans le ciel, ses branches sont enracinées à notre enfance. C'est une métaphore où il a vraiment été planté, ce chêne?
Il a vraiment été planté.
Par votre maman?
Alors, par mon papa.
Par votre papa.
Par mon papa, justement, le ménou du livre.
Mm.
Moi, je croyais qu'il avait planté le jour de ma naissance. Et puis, l'autre jour, il y a quelques mois, j'amène justement Daria à la maison. Et je dis, voilà, c'est le chêne de la chanson qu'il a planté pour moi le jour de ma naissance. Il me dit, Bon, j'ai planté pour toi, mais c'était 15 jours plus tard. Donc le mythe est un peu tombé.
Il aurait pas dû le dire.
Mais c'était rigolo.
L'enfance, cette enfance qui a joué un rôle déterminant, que vous racontez celle de votre père dans votre livre, hein, mais chez vous, c'est clairement très important. Est-ce que vous décririez comme peut-être un peu mélancolique ou nostalgique?
Non.
Non.
Mélancolique parfois, oui. Oui. Parce que, mais c'est important la mélancolie. Hein.
Ouais,
c'est encore une fois,
important.
C'est le noir du ciel pour faire apparaître les étoiles. Hein.
Ouais.
C'est, y a un très beau film là-dessus de Pixar qui s'appelle Je ne sais plus comment, où il y a toutes les émotions. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est absolument génial. Et justement, la tristesse culpabilise à la fin et la joie lui dit mais j'ai besoin de toi.
Et c'est vice versa le film.
C'est vice versa. C'est exactement vice versa. C'est absolument merveilleux, je trouve, ce film. Comme souvent chez Pixar, hein. Mais
ils sont bons, ouais.
Ah, ils sont bons, hein. Ils sont bons. Ils sont pas justement dans un truc formaté. Ils essayent vraiment d'aller chercher le dernier sol là, est encore sublime.
Ouais.
Enfin, du coup, non. Et la nostalgie, non, parce que en fait, je n'ai aucun réflexe de régression.
Mm.
C'est-à-dire que je ne voudrais pas être à nouveau un enfant de 8 ans.
Non.
Mais par contre, mon enfant intérieur,
voilà. Garder ses étoiles.
Voilà, hein, mon enfant intérieur est en très bonne santé, je le nourris beaucoup. Mais par contre, j'aime avoir 47 ans, aime avoir ce parcours avec ses difficultés et ses joies. Mais par contre, je fais attention à mon enfant intérieur autant, voilà, comme finalement tous les artistes que j'adore. On parlait tout à l'heure de indirectement de Méliès ou de Cocteau, ou de Gondry ou de Björk ou de Chaplin. Et je pense que c'est des gens qui avaient des enfants intérieurs en bonne santé.
Qui les câlinaient, quoi. Alors dans les extraits qu'on a entendus, il y avait aussi un extrait de Jack et la mécanique du cœur, hein, qui est un film d'animation qui est tiré de votre livre.
Oui.
Alors c'est un film qui est sorti après l'album et le livre avant, hein, c'est comme ça que ça s'est passé ? Ou c'est les trois en même temps ?
Le livre et le disque sont sortis quasiment en même temps.
Ouais. Et c'est le film ensuite,
octobre 2007,
c'est ça, quelques années après.
Et j'ai mis 6 ans à faire le film ensuite derrière. Ouais.
Et alors pourquoi il fallait aussi le mettre en image ? Parce que vous parliez de Pixar tout à l'heure, c'était pour continuer dans cette idée de projection de l'enfance aussi et des images que vous donnez, parce que c'est un film qui fonctionne pour les enfants.
Le truc, c'est que moi, j'ai une passion totalement équilatérale entre la littérature, la musique et le cinéma.
Mmh. C'est les mêmes moyens d'expression pour vous, en fait.
C'est pas les mêmes.
Ouais, mais je veux dire, c'est la même impulsion. Alors,
mais
peut-être.
C'est la même impulsion, en tout cas. Et ça me nourrit pas de la même manière. C'est comme si je devenais un négatif et que je plongeais dans un bain révélateur différent à chaque fois. Et moi, en fait, j'ai fait une fac de cinéma où j'ai fait une maîtrise et j'avais commencé, parce que je ne l'ai jamais terminé, un mémoire de maîtrise sur Jim Jarmusch.
D'accord.
Et c'est par Jim Jarmusch que j'ai découvert Neil Young.
Ouais.
En fait, cet arbre généalogique, c'est toujours été mélangé. Donc pour moi, ce n'est pas un exercice de style d'un coup de dire « Ouais, je vais faire du cinéma ». En fait, le fait est que j'ai commencé avec le groupe. Et puis qu'ensuite, j'ai fait des textes et que les textes m'ont donné envie de faire des nouvelles qui ont donné un premier livre, puis un premier roman, et que j'ai fait des clips en
Super
8. C'est
pas quelque chose que vous projetez et que vous pensez en amont, en fait. Il faut que ça soit instinctif et que ça vienne à vous, quoi.
Non, 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 vraiment, la seule fois où vraiment ça c'est devenu un peu conceptuel, effectivement, c'est sur la mécanique du cœur, parce que j'ai commencé donc le personnage a une horloge à la place du cœur, parce qu'il naît le jour le plus froid du monde, et que pour le sauver, une sage-femme un peu sorcière lui remplace son cœur par une horloge.
Je conseille à vos enfants, chers auditeurs, ma fille a adoré, hein, mais au-dessus de 6 ans, quoi.
Ouais, quand même. Voilà. Il fait pas peur, mais il y a rien de choquant, mais c'est vrai qu'il peut être, il y a des moments un petit peu avec des atmosphères un petit peu, avec Jack l'Éventreur, avec Bachung, hein, Jack l'Éventreur. et tout ça, en fait, à partir du moment où j'ai enregistré le son du cœur, par exemple, au début, c'était qu'une histoire. Puis j'ai enregistré le son du cœur. Donc j'ai enregistré le son du cœur, on a fait des boucles avec. On a commencé à faire un morceau. Et après, je me suis dit, un morceau, on va faire tout ça, et en fait, on va sampler.
C'est coulé de source, quoi.
C'est devenu ça. Et c'était tellement cinématographique qu'en fait, je faisais la bande originale du livre comme si c'était un film. Donc, voilà.
Tout se mélange, mais chaque chose a sa place, hein, chez vous. Hein,
bah, il faut essayer de travailler.
Alors, Mathias Malzieu, vous avez aussi réalisé, on le dit, un film tiré de votre avant-dernier roman, une sirène à Paris, qui effectivement a été enlevée des salles assez rapidement à cause de la pandémie. Alors, ce film, c'était avec Nicolas Duvauchel et Marine Lima.
Et Rossi de Palma et Checky Cario.
Et Rossi de Palma et Checky Cario, très important, bien sûr.
Romain de Boranger.
Il y en avait du beau monde dedans, ouais. Et alors, vous êtes en fait, pour en revenir à ce qu'on disait, vous êtes un homme orchestre, quoi. C'est-à-dire que. Et comment. Quand on est soi-même artiste et qu'on monte sur scène, est-ce que c'est pas un peu compliqué d'aller diriger des acteurs, justement ? Quel est le rapport ?
Ah non, c'est génial. Parce que vous savez, c'est le principe qu'il y a. Réaliser un film, outre la direction des acteurs, c'est aussi choisir où est-ce qu'on met la caméra. Donc, on change de point de vue à chaque fois. Et c'est ce que dit le professeur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus quand il leur demande de monter
Quelle
sur
référence.
La table. C'est
changer
en fait,
de point de vue.
C'est changer de point de vue. Donc, c'est se remettre en question. Donc, moi, je n'ai jamais autant appris sur mes chansons que quand j'ai commencé à faire des livres. Mm. Je n'ai jamais autant de recul joyeux sur mes livres que quand je les mets à l'image. C'est toujours ce truc-là qui fait que, bon, bah, c'est pas facile pour l'entourage parce qu'il y a une forme de boulimie qui, en plus, s'est exacerbée depuis ma greffe parce que la pulsion de vie. C'est augmenté au contact de la mort, donc je suis pas devenu du tout un moine zen qui.
On vous voit pas comme ça. Je vous rassure.
Je suis encore bien malheureusement.
Vous êtes un créateur. Il faut être traversé par les émotions quand on crée, hein, sinon c'est compliqué.
Voilà, je suis un petit peu traversé quand même, mais en tout cas j'ai une conscience de la pulsion de vie et toutes les choses un peu qui sont de l'ordre de la mesquinerie, la médiocrité, du machin. Pourtant, je peux être médiocre parfois, ça m'arrive comme tout le monde, mais en tout cas, ça me fatigue beaucoup plus vite qu'avant, et ça, c'est un service que m'a rendu l'après-maladie.
Oui, vous gagnez du temps, quoi.
Ouais.
Très rapidement, vous deviez monter sur scène avec Dionysos pour un voyage dans le temps avec The Time Machine Experience, mais évidemment, on le sait, la tournée a été reportée comme tant d'autres.
Oui, mais on a fait quand même ce petit concert-là.
Vous avez fait ce petit concert-là, mais est-ce qu'on aura le plaisir de vous revoir bientôt sur scène, du coup, maintenant qu'on va pouvoir être debout ?
Alors, on a fait 26 concerts cet été, entre le mois de juin et le mois d'octobre, debout. Sauvage, avec un public complètement soulagé et consolé.
Il y a eu
consolé.
Que quelques dates qu'on sautait finalement.
Il y en a quand même, on a perdu
vingtaine.
Une bonne vingtaine. Mmh. Ouais, il devait y avoir...
La moitié quoi.
Ouais. Mais on a sauvé la moitié, et c'était un moment exutoire, joyeux, et assez émouvant aussi, franchement.
Oui, de retrouver le public.
Ouais.
Et vous allez revenir alors ?
Bah oui, oui, parce que
du coup, nouvel album,
il va y avoir des dates avec Daria.
Ouais.
Et puis en 2023, on va quand même fêter les 30 ans de Dionysos comme il se doit.
J'espère.
En bonne et due forme.
On sera là. Merci. Mathias Malzieu.
Merci beaucoup à vous.
Je vous en prie. C'est excellent sur Sud Radio avec l'auteur et fondateur du groupe Dionysos, Mathias Malzieu, et la directrice déléguée de la Fondation Orange, entre autres, Elisabeth Tchungi, dans un instant. A tout de suite.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Merci d'écouter Sud Radio si vous nous rejoignez. Bienvenue dans cet excellent. Encore une bonne demi-heure d'échange à partager ensemble avec l'homme poétique et musicien Mathias Malzieu, rejoint par une femme de poigne et de cœur, Elisabeth Tchungi, directrice exécutive du RSE du groupe Orange et directrice déléguée de la fondation chez Orange aussi. Bonsoir Elisabeth Tchungi.
Bonsoir Judith.
Bienvenue. Alors, je le disais en introduction, vous venez de sortir chez l'Aube un entretien avec Elisabeth Cagé, nommée Tout est possible. Tout est possible, en fait, hein, c'est ça que vous voulez nous dire.
Avec Agathe
très clairement.
Cagé.
Absolument. Agathe Cagé, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Elisabeth. Alors, ce titre et ce livre, c'est pour vous raconter, mais c'est aussi, c'est très clair, un témoignage qui peut ouvrir des vocations ou en conforter. Vous en avez conscience, est-ce que c'est aussi pour ça que vous le faites ? Vous voulez transmettre votre route pour en ouvrir d'autres, potentiellement ?
C'était toute l'idée de la collection d'Agathe Cagé, qu'Agathe Cagé lance, qui s'appelle Numéro 1. Et ce livre, c'est un cadeau finalement, parce qu'un beau jour, Agathe, une de mes plus brillantes jeunes intellectuelles, me contacte, m'explique qu'elle lance cette collection parce que trop souvent, les femmes se mettent des barrières, qu'elles ont besoin de rôle modèle, et elle me demande si je suis d'accord pour inaugurer cette collection.
Ah, donc, vous j'étais inaugurez très... la collection.
Oui, j'inaugure la collection, donc j'étais très flattée, et je lui ai demandé pourquoi moi. Et sa réponse, ça a été parce que j'estime que vous avez réussi là où personne ne vous avait attendu, que vous avez enfoncé quelques portes bien fermées, que vous avez eu
chez
aussi
vous,
cette audace de...
Oui, chez vous, c'est pas la cheminée ou la fenêtre, vous cassez les murs, Elisabeth Tchungi, c'est ça l'idée.
Oui, je suis très déterminée.
Vous osez,
quand je veux quelque chose, je ne lâche rien. Alors non, je ne défonce pas les portes parce que je suis adepte de la non-violence.
Non, je parlais du mur.
mais je rentre par la fenêtre,
oui,
je par la cheminée, effectivement,
comme
je trouve toujours un interstice pour arriver.
Alors, vous décrivez, et justement, Agathe Cagé vous décrit comme une pionnière, une de ces femmes incarnées qui sont citées en début de livre, comme entre autres celle que j'ai notée le plus, évidemment, la grande avocate Gisèle Halimi ou la première chef étoilée de l'histoire, Jenny Brasier, par exemple. Parce que être une pionnière, Elisabeth Tchungi, vous êtes une combattante et presque de la lumière, j'aurais envie de dire. C'est ça, c'est toujours aller vers les étoiles.
C'est toujours aller vers les étoiles et en tout cas refuser l'obscurité là où parfois on veut nous laisser enfermer. Et ça, je le dois. Je ne peux pas. J'ai écouté Mathias parler de son père. Cet esprit pionnier, je le dois à mes parents qui ont pour point commun d'être des enfants d'agriculteurs. Mon père au Cameroun, qui naît dans les années 30 et qui va
se retrouve
faire une fugue
faire des...
pour aller à l'école. Il voit ses cousins passer. Il a cette envie d'aller ailleurs et puis voilà, il se retrouve
à 14 ans à faire des hautes études hein,
voilà,
en France.
Voilà, et puis Énarque et ma mère qui vient du Tarn, elle aussi qui a été la première personne de sa famille à faire des grandes études universitaires et donc voilà, ils m'ont transmis ce viatique qui est très précieux dans la vie, ce fameux tout est possible.
C'est familial hein, chez vous d'être pionnier, effectivement, Elisabeth Tchoungui, c'est ce que je voulais dire juste après. Alors, votre papa, il est né camerounais, on le disait, et votre mère, elle est du Tarn. Ils ont été également pionniers par le fait d'assumer d'être un couple mixte dans une période où il y en avait très très peu. Est-ce que ça a évolué depuis et comment ils l'ont vécu, justement, cette période? Est-ce qu'ils en ont souffert? Comment c'était?
C'était assez difficile parce qu'ils ont subi du rejet de la part de leur famille respective, deux côtés. L'arrivée des enfants a apaisé les choses.
On l'espère.
Voilà. Et justement, ça aussi assumé ce métissage, ça nous a. Ils ont transmis à leurs enfants ce goût de la liberté, ce refus de l'assignation à résidence. Moi, par exemple, on m'a posé un jour une question. Surréaliste, on m'a demandé un jour si tu pouvais être blanche ou à regarder ta couleur, tu choisirais quoi? Et je suis tombée des nues parce que franchement, je m'étais jamais posé cette question.
Pardon, hein, mais... Alors, Elisabeth Tchoungui, justement, dans ce livre Tout est possible, vous nous racontez vos succès, vos échecs, vos difficultés, en posant une presque évidence qui est parfois difficile d'appliquer. Le succès n'existe pas sans échecs et sans difficultés, on est bien d'accord? Il faut y passer. Hein,
effectivement, ce livre, c'était aussi l'occasion de démystifier des discours de Wonder Woman qu'on peut entendre ça et là, comme si la réussite, c'était quelque chose de linéaire. On ne réussit pas si à un moment, on n'a pas subi des échecs, parce que on apprend de
c'est
ces échecs.
C'est comme l'obscurité et la lumière.
Exactement.
Ça, ouais.
Il faut apprendre à tomber pour mieux se relever. Et c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, c'est très... la notion d'échec est beaucoup plus acceptée. Voilà, en France, on a peut-être plus
Pourquoi,
de mal...
Pourquoi, à votre avis, c'est plus difficile ici?
Plus difficile ici... Peut-être toujours ce système. Moi, j'adore mon pays, mais on est quand même dans un pays de tiroirs où on vous met dans des cases. C'est pour ça que j'adore ce parcours éclectique encore de Mathias.
Oui, c'est aussi la preuve que ça évolue, quoi,
oui,
et que les barrières se lèvent tout doucement, grâce aussi à votre engagement ou aux engagements de certains artistes. Hein. Vous pensez que vous jouez là-dessus, que vous êtes partie prenante dans cette évolution actuelle où effectivement on connaît moins de barrières qu'avant, que ça soit dans la culture ou en général?
Oui, évidemment, les artistes ont un rôle à jouer. Moi aussi, j'ai toujours eu quand j'ai fait ma carrière, toute ma carrière dans les médias, j'ai justement eu toujours à cœur de bousculer les lignes et cet esprit pionnier. Quand, par exemple, j'arrive sur le marché du travail en sortant de la meilleure école de journalisme de France, que je me pose pas trop de questions.
C'était Celsa, c'est ça?
C'était l'école de journalisme de Lille et que je me retrouve dans l'open space de TF1 et que je suis la plus jeune. Il n'y a pas encore énormément de femmes. Et puis je suis la seule.
La seule, d'accord.
Là, je me dis, ah oui, il va falloir un peu batailler pour faire bouger quelques lignes. Et donc, ça a bougé depuis. Et c'est ce qui anime mes engagements. C'est que je sais que j'ouvre
des
portes pour les autres. Et c'est aussi le message de Tout est possible.
Alors,
c'est cette collection numéro une.
Ouais, vous avez deux points communs avec Mathias Malzieu, tous les deux, que j'ai remarqué. Le premier, c'est la transmission des parents, hein, très clairement. Vous, votre père, qui est extrêmement important, et vos parents aussi qui ont été importants dans cet esprit pionnier que votre père a également, hein, Mathias Malzieu.
Complètement.
Puis le deuxième, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort, en fait. Hein, c'est ça?
Nietzsche.
Voilà.
Qui est quand même une phrase un peu... qui n'est pas totalement vraie, parce que de temps en temps, ça abîme un petit peu quand même. Mais au final, oui. Et puis, ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de réussir, c'est la question du chemin. C'est l'importance du chemin. C'est-à-dire que l'échec, est-ce qu'on en tire? La solution qu'on trouve au problème, c'est très important. C'est J.K. Rowling qui dit ça merveilleusement bien. Elle avait fait un discours pour les élèves de Harvard, ou une grande école. Et à ce moment-là, elle dit, là, vous venez d'avoir un succès extraordinaire, et moi, je vais venir vous parler d'échecs. Parce que ce qui va vous faire, là, bravo, ça veut dire que vous avez un potentiel extraordinaire. Profitez, soyez joyeux. Mais comme tous, vous allez avoir des échecs. Et c'est là que ça va se jouer. Mmh. Et elle raconte effectivement qu'elle a écrit le premier Harry Potter en mère célibataire dans un café entre midi et deux, et qu'elle a été refusée par 14 éditeurs qui, je pense, se mordent les doigts jusqu'au coude aujourd'hui.
Ah ben ça c'est clair, ouais. Vos échecs qui vous ont construite aussi, Elisabeth, et vos difficultés, hein, on le disait, donc ça, c'est aussi une impulsion chez vous.
Oui, c'est une impulsion. Effectivement, j'étais très sensible à votre parcours de résilience aussi, Mathias, parce qu'on a ce point commun d'avoir une maladie grave. Ouais. Moi, ça a été un neuropaludisme, donc une forme très sévère de malaria. Je me suis retrouvée dans le coma, pronostic vital engagé. Plus d'un
mois d'études. C'est une expérience de mort imminente, hein, que vous
absolument. Voilà, un mois d'hôpital, la convalescence, et donc j'en ressors vivante, mais j'ai plus de travail. Et là, je décide de tout recommencer et tout recommencer différemment, c'est-à-dire une sorte de reset. Mm. Et c'est à ce moment où je me dis bon, je suis tombée au plus bas, mais voilà, la lumière est là, j'ai cette pulsion de vie, et donc on rassemble ses forces et on se dit voilà, quel atout j'ai, qu'est-ce que je veux faire. Et c'est ce chemin, à un moment, fait d'engagement, fait de l'audace, parce que finalement, après, si on échoue, personne
ne
va mourir. Hein.
De l'audace, toujours de l'audace.
Toujours de l'audace. Et c'est finalement ce chemin qui m'a fait basculer des plateaux de télévision au bureau des CAC 40.
Du CAC 40. Il faut oser, quoi, Elisabeth Tchoungui, hein, c'est ça. Comment ça se passe quand on est la seule femme métisse, hein, si je ne me trompe pas, du comité exécutif de chez Orange? On peut savoir?
Écoutez, fort heureusement, chez Orange, le groupe est convaincu que la diversité est une source de performance.
Donc,
le groupe est présent dans 28 pays, dont 18 en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc voilà, je pense que ce qui était recherché et ce que j'essaye d'apporter, c'est justement ce regard neuf, ce point de vue différent. Hein, on en parlait, vous en parliez, Mathias Malzieu, c'est-à-dire monter sur la table tout de suite. Forcément, je ne suis pas ingénieur, je suis arrivé sans connaître grand-chose au télécom, mais je connaissais mes sujets liés à la diversité, l'engagement, la philanthropie. J'ai dû monter en compétences très vite sur les sujets environnementaux, mais surtout, voilà, je pense que j'amène un regard différent. Et puis, c'est formidable aussi de se rendre compte que les compétences qu'on a acquises précédemment servent. Par exemple, voilà, j'ai présenté des émissions pendant des années, c'est du management transverse.
Oui.
Et c'est ce qu'on me demande de faire chez Orange.
D'accord.
Donc, ça tombe bien.
Oui, donc,
de travailler avec des équipes très différentes, des divisions très différentes, autour d'un objectif commun, réduire notre empreinte climatique, développer nos programmes d'inclusion numérique. Et donc, voilà, je suis une sorte de chef d'orchestre et de ces programmes. Et en cela, mon expérience de présentatrice a été extrêmement utile.
Donc, c'est comme si tout ce que vous aviez fait avant prend forme dans le poste que vous avez actuellement, Elisabeth Tchoungui, hein, c'est ça?
Exactement. Donc,
ça,
c'est les étoiles,
quoi.
Finalement. Ouais. C'est une conjonction astrale, ça peut paraître inattendu effectivement, mais il y a une conjonction astrale et surtout en fil rouge, un engagement, parce que je m'occupe de sujets pour lesquels j'ai milité précédemment dans les associations, l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes autistes, notamment.
On va venir aussi. Bien sûr. Mathias Malzieu, vous avez en commun avec Elisabeth Tchoungui les étoiles.
Oui, moi je suis admiratif là, je suis... Enfin, d'écouter, je me réjouis parce que ce qui me plaît dans tout ça, c'est que il y a à la fois une énorme ambition de désir, pas l'ambition comme un gros mot, un désir de faire et de vivre, et en même temps de partager, donc une humilité.
Oui.
Les gens, dans un temps qu'on traverse en ce moment où la nuance n'est pas très à la mode quand même, si quelqu'un d'ambitieux, il est que ambitieux, ou s'il est trop humble, il se fait marcher dessus ou machin. On a beaucoup ça. Et sur la question notamment de comment on est perçu en France, alors... peut-être quand on vient d'un pays étranger, etc. aussi, ou quand on essaie de faire différemment ou plusieurs choses. Mais là, en fait, il y a un côté sans complexe au joli sens du terme, au sens tendre du terme. C'est-à-dire qu'il y a un amour du partage, il y a un amour d'humanité, et en même temps, on ose. Et ça, c'est joyeux. C'est pour moi, c'est ça la vraie qualité de la joie, et je me réjouis d'entendre tout ça.
Donc, le fait d'oser, ça rend l'ordinaire extraordinaire, en fait, hein, aussi. C'est-à-dire que ça trace les chemins.
Oui, mais pour oser, l'audace, on ne naît pas audacieux, on le devient. L'audace, ça passe par tout un processus, ça passe par par la confiance, par la transmission encore, les parents qui vous transmettent cette confiance, qui vous disent tout est possible, parce que encore une fois, je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société où on assigne trop souvent les gens à résidence, où le respect n'est pas la notion la plus communément partagée. Donc, dans ce contexte, c'est difficile d'oser. On a besoin, de mentors. J'ai la chance, chez Orange, de pouvoir développer des programmes de mentorat, et c'est fou, les salariés bénévoles qui mentorent des jeunes, c'est une manière d'abord de leur dire, voilà, prends confiance en toi, ils les accompagnent pour préparer des entretiens d'embauche, pour préparer des examens, et voilà, juste leur donner le coup de pouce qui va les faire oser et les extraire de l'assignation.
De l'ordinaire aussi. Osons, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Sud Radio et on va oser. On continue encore un quart d'heure avec le chanteur, auteur aux multiples talents Mathias Malzieu et la femme engagée et multifonction Elisabeth Chung. On revient tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair.
Merci d'écouter Sud Radio. Nous avons encore un quart d'heure ensemble pour parler de l'excellence et de la force de son implication. Dans cet excellent, on crée le lien et ce soir, on le fait entre l'homme poétique et rocker Mathias Malzieu, que vous connaissez aussi pour le groupe Dionysos, et Elisabeth Chungi, journaliste et animatrice, ancienne journaliste et animatrice, mais on l'est toujours, je crois, femme et métisse et du comité exécutif d'Orange. Elisabeth Chungi, avant d'aborder justement votre rôle chez Orange et ce qu'il implique, je voulais quand même vous échanger autour de l'autisme, parce que vous en avez parlé très rapidement tout à l'heure, le sujet de l'autisme qui est un de vos combats. Combat que vous avez raconté dans le documentaire Mon fils, ma bataille, qui a été diffusé sur France 5 en 2021. Combat que vous avez mené parce que c'est difficile en France d'être autiste et handicapé en général. Vous pensez que ça manque de structure, il y a encore beaucoup de choses à faire en fait, c'est ça?
La France a un retard considérable en effet dans la prise en charge de l'autisme. Je l'ai expérimenté de près parce que mon fils aîné est autiste Asperger, une forme légère parce qu'on parle de troubles du spectre autistique. Et encore une fois, je pensais à lui parce que je lui ai montré la mécanique du cœur parce que les autistes ont parfois du mal à mettre un mot sur des mots sur leurs émotions et comme une cafetière qui déborde et vice versa aussi est un film culte. Et donc et ce qui était insupportable aujourd'hui, mon fils qu'on voulait mettre en hôpital psychiatrique à 4 ans et demi, voilà, il a 13 ans. Il est au collège en quatrième avec tout un accompagnement spécifique, une auxiliaire de vie scolaire, des défis, mais il fait son petit bonhomme de chemin.
Et j'ai presque envie de dire comme nous tous.
Exactement. Et encore une fois, je refuse l'assignation à résidence. Si lui s'en sort bien, c'est parce que j'ai eu les moyens intellectuels de contester les diagnostics médicaux fallacieux, de le faire prendre en charge intégralement dans le système privé, des écoles privées. Donc voilà, donc c'est un scandale parce que beaucoup de familles n'ont pas ces moyens-là, et c'est pour cela que j'ai écrit d'abord ce livre,
et on
le jour où tu es née une deuxième
été
fois,
outré
et ensuite
aussi
le film.
Par les propos d'un candidat qu'on ne citera pas ici, qui pense qu'il faut mettre les handicapés, enfin les gens qui ont des problèmes d'autisme, etc., dans des établissements où ils ne sont qu'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos, justement ?
L'école inclusive a montré son efficacité. Et en plus, l'école inclusive, ce qui est formidable, et ça, beaucoup de professeurs en témoignent, c'est quand un enfant différent est dans la classe, ça bénéficie à tous les autres élèves de la classe, parce que qu'ils apprennent la tolérance, apprennent la différence, ils apprennent le vivre ensemble, ils apprennent l'entraide,
et puis lui,
le sens du collectif.
Ça l'aide à être moins différent.
Et lui, ça lui ouvre des perspectives, ça l'intègre.
J'ai reçu ici Olivia Catan, la présidente d'SOS Autisme France. Je suppose que vous connaissez son combat.
Oui.
Voilà. On passe un message ici. Il faut vraiment que, effectivement, on continue à travailler sur la situation des personnes en situation de handicap en France.
Mais vous voyez, quand on parle de fil rouge, ce n'est pas un hasard aujourd'hui si je suis chez Orange, parce que l'autisme est un axe fort de mécénat de la Fondation Orange. Et dans cette envie d'agir, cette pulsion, j'ai développé un programme qui s'appelle Neuroteam, parce que on sait très bien que certaines personnes autistes ont des compétences très spécifiques.
Très
pointues, dans des métiers pénuriques, dont la cyberdéfense. Or, Orange aujourd'hui est un opérateur de cyberdéfense aussi, et donc voilà, j'ai pu lancer un programme pour recruter des collaborateurs autistes.
Comme quoi,
voilà. Tout est possible.
Tout est possible, effectivement.
Tout est vraiment possible, parce que par exemple, il y a quelques autistes Asperger de renom, par exemple.
Albert Einstein.
Oui, Spielberg et George Lucas.
Ah, Spielberg, je ne savais pas tout. D'accord, eh ben, on apprend des choses
sur Chaud Radio ce soir.
Absolument. Elisabeth Chungi, vous êtes donc entrée chez Orange il y a un peu plus d'un an, hein, c'est ça? Donc en tant que directrice exécutive de la responsabilité sociale des entreprises RSE et aussi directrice déléguée de la Fondation. De rôle que vous alimentez d'engagement, on le dit, hein, justement sur l'autisme. Mais par exemple, votre programme 0% carbone, hein, qui est pour 2040, ou vos maisons digitales. Alors ça m'a particulièrement marquée, pour les femmes et le numérique, qui sont réparties dans 27 pays internationaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'accès au numérique pour les femmes qui n'y ont pas accès et qui ont moins accès que les hommes, finalement, à l'international.
Voilà, c'est pour les femmes et pour les jeunes, parce que c'est vraiment et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le groupe Orange, c'est que je crois vraiment à la puissance transformante des grands groupes, hein, et à cette révolution technologique, hein, ce petit objet qu'on a tous dans notre poche, qui n'existait pas il y a 25 ans, elle n'a de sens que si elle est pour le bien aussi. Bien et donc concrètement, sur ce programme Maison Digital, nous accompagnons des femmes qui ont souvent été victimes de violences conjugales. Nous développons leurs compétences numériques.
Et vous créez aussi des
certaines,
vocations.
On crée des vocations. Certaines trouvent un emploi à la clé. On a aussi des programmes à travers nos Orange Digital Center pour les jeunes, avec un impact immédiat. Et moi, je cherche de l'impact. C'est pour cela que je suis chez Orange. Et là, concrètement, une promotion de jeunes 6 mois après notre certification numérique dans les Orange Digital Center, 90% d'entre eux trouvent du travail directement à la sortie.
Bravo.
Parce que ce sont vraiment des formations spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des entreprises de l'écosystème local, et donc ça marche.
Bravo. Et alors, votre programme zéro carbone pour 2040, c'est faisable vraiment ?
Nous y croyons fermement, oui. Nous avons pour ambition d'être net zéro carbone en 2040. Alors effectivement, ça passe comme toutes les organisations aujourd'hui par réduire notre propre empreinte carbone, hein, avec développer l'économie circulaire aussi. De plus en plus de mobiles sont réparables, recyclables. On n'imagine pas tout le potentiel encore. Il y a 100 millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs en France.
Vrai.
Et ce sont des mines urbaines, c'est-à-dire que les métaux qu'on extrait ces vieux téléphones, ça évite d'aller les extraire dans des conditions de travail parfois discutables, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, encore une fois, d'être moteur de la transformation aussi, parce que on développe aussi des solutions green pour les autres. Vous pouvez monitorer
sur tous les sujets importants sociétaux du type impact, effectivement, écologie, le problème des femmes, l'éducation des jeunes, etc. Vous êtes présent, quoi.
Voilà, on est présent et on a...
Vous actionnez et vous faites bien les choses. Avant d'être à la tête de la Fondation Orange et directrice RSE, vous étiez journaliste et animatrice télé. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix disruptif ? C'est à cause de la maladie, mais est-ce que c'est quelque chose aussi que vous aviez prévu avant ? Est-ce que vous en aviez marre, en fait, du monde des médias ? Pourquoi est-ce que vous avez changé de carrière ?
Alors, j'ai adoré ma carrière dans les médias et j'ai eu un parcours très éclectique. J'avais choisi les médias parce que c'est un formidable levier pour susciter des prises de conscience, faire bouger des lignes sur les sujets qui m'ont toujours tenu à cœur.
Vous êtes engagée,
le féminisme, par exemple, et puis la culture, l'accès à la culture pour tous, hein, notamment. Mais à un moment, je trouvais qu'il y avait une prime à l'émotion dans laquelle je me retrouvais plus forcément dans cette prime à l'émotion, dans cette baisse budgétaire qui nuit parfois à la qualité des émissions. Et voilà. Et puis j'avais envie d'une nouvelle vie, hein, je crois.
Envie de prendre un nouveau risque aussi. Hein,
oui, je crois que j'avais envie de prendre un nouveau risque aussi. J'aime bien les défis,
bien
en fait.
Ça, on a cru comprendre. Mathias Malzieu, prendre des risques, c'est une partie inhérente à tout chemin, finalement.
Oui, moi je crois que, en fait, après, les gens confondent ceux qui n'ont pas beaucoup d'imagination, croient que le risque c'est le truc du fou et que c'est le truc qui va nous attirer des ennuis. Alors qu'en fait, le risque fait partie inhérente de la vie. C'est Brel qui disait la vie, c'est très mauvais pour la santé.
C'est-à-dire
qu'à un moment donné, et si on tente rien, bon, on revient dans ce qu'on a dit tout à l'heure.
On tente rien,
il va rien nous arriver.
Bah,
même s'il nous arrive quelque chose de pas bien, et ben on va en apprendre. La métaphore du ski est toute simple. Hein. On peut continuer à faire du ski en chasse-neige en écartant les skis comme un crapaud toute sa vie. C'est sûr qu'on va pas tomber. Mais si on commence à essayer de mettre les skis parallèles, à un moment donné, on va les croiser, on va tomber. Et puis après, on va apprendre. Et puis
c'est en tombant qu'on apprend à se relever.
Bah oui, on ira plus vite et on prendra plus de plaisir et on va avancer, on va grandir un peu.
Quelle émission pleine de bon sens ce soir sur Sud Radio. Alors on en arrive hélas à la dernière partie, dernière question de cette émission, chers amis. On va commencer par vous, Elisabeth Tchoungui. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez?
Quelle question, hein, terrible.
Vous projetez en 5 ans, quoi.
Je lui dirais... Regarde, ça vaut la peine d'avoir le goût des autres.
Oh, le goût des autres. Ça, c'est une belle phrase.
Bon.
Vous allez faire mieux ou pas, Mathias?
Non, je suis mal barré, là, du coup.
Pourtant, c'est vous le poète, en principe.
Ah, oui, mais là,
l'homme poétique.
Comme quoi, il n'y a jamais de cloison. Vous êtes habitué à les défoncer, les cloisons.
À les décloisonner, oui. Juste, vous êtes là où vous aviez envie d'être? Est-ce que vous vous projetiez là, quand vous étiez petite?
Oui. Je ne me projetais pas forcément là, mais aujourd'hui je suis vraiment là où j'ai envie d'être parce que je me rends compte que je me suis jamais vue comme une femme de pouvoir et aujourd'hui que j'ai du pouvoir, je me rends compte que j'adore ça.
Mais c'est peut-être pour ça que ça marche. Quand on n'aime pas le pouvoir et qu'il nous arrive, peut-être qu'on s'en sert mieux. Hein.
Mais c'est pas par ego parce que mon ego, je l'ai plutôt flatté à la télévision.
Ouais.
C'est le pouvoir
d'agir.
Le pouvoir d'agir pour les autres.
Bien sûr. Mathias Malzieu, vous avez eu le temps de réfléchir un peu, vous avez vu, j'ai été sympa.
Non, j'ai écouté et j'ai pas réfléchi.
Alors, qu'est-ce qu'il dirait à l'adulte que vous êtes, à l'enfant que vous étiez?
Quel âge il avait, le petit?
Entre 5 ans, ouais. 5 ans, 5-6 ans.
5 ans, j'étais plus petit que les autres, plus roux. Et j'étais à la fois plein de rêves et très en colère. Et je lui dirais, écoute, essaye de faire une petite cuisine, une petite potion magique entre l'énergie que te donne la colère pour continuer à devenir toi-même. Pour l'instant, t'es au début, t'es en train de devenir toi-même, c'est work in progress jusqu'à la fin de ta vie, et vas-y, continue, même quand tu te trompes, continue, il va se passer des trucs marrants sur le chemin.
C'est ce que vous avez fait finalement?
C'est ce que j'essaye et si je et
vous pensiez déjà comme ça petit en fait, sans vous en rendre compte peut-être.
C'est vraiment l'adulte qui parle à l'enfant,
ouais.
Donc je dis pas que j'avais pas intégré intellectuellement ça,
non.
Mais en tout cas
vous aviez un instinct quoi.
En tout cas il y avait un truc, j'avais des rêves très forts et en même temps une colère et un rapport à l'injustice complètement ultra sensible et que j'ai essayé de j'ai fait de mon mieux, mais c'est que
vous
quelque part c'est le début.
Quoi.
C'est que le début, c'est-à-dire que quand
on
je dis
on apprend toute la vie quoi.
Je sais, j'ai fait un anglicisme. C'est moche.
Allez-y.
On peut dire work in progress, on peut dire juste que, en tout cas, j'ai envie de continuer, de devenir moi-même. Et puis des fois, devenir...
Continuer à devenir vous-même.
Ben ouais, bien c'est sûr, bon. Parce que...
Le goût des autres et continuer à devenir soi-même.
Il y a un moment où je vais descendre aussi, à un moment donné où on a un recul, où on a un échec. Et ben, mais sur l'autre courbe, la courbe du devenir soi-même, il ne faut pas qu'elle soit interrompue, celle-ci, quoi qu'il arrive.
Merci. Merci à tous les deux pour
Merci
ce beau
beaucoup.
Partage et cette belle émission.
Merci.
Avec grand plaisir. Je rappelle que le dernier roman de Mathias Malzieu, Le guerrier de porcelaine, est sorti chez Albin Michel. Il est à retrouver chez tous les bons dealers. Et que celui d'Elisabeth Tchoungui avec Agathe Cagé, Tout est possible, est sorti chez l'Aube. Il y a aussi sa bonne place. Vous qui m'écoutez, merci pour votre fidélité. Je reviens dimanche prochain à 19h. Et avant ça, pour Un jour un métier, le vendredi dans le Grand Matin de Sud Radio, une plongée dans les métiers pour vous. Un grand merci à Maxime Sénat, le réalisateur de cet excellent pour aujourd'hui, et Méloane Rock et Antoine Mazer, évidemment. Vous pouvez me podcaster, mais pas moi, hein, l'émission, bien sûr, sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux. Bisous les copains, la semaine prochaine, c'était excellent.